C'est parti, voilà.
Bonsoir, nous voici à l'heure de l'antenne du social, le troisième vendredi de 19h à 21h. Donc l'émission, pour ceux qui la connaissent, se veut une émission pour faire connaître le travail social, ses conditions d'exercice, ses finalités, les questions qui se posent. Voilà, donc le travail social étant de façon un petit peu générique le travail exercé auprès de personnes en difficulté. Alors donc ce soir, nous avons pensé à un thème qui est un peu, comment expliquer, peut-être aride par rapport à... peut-être pour les auditeurs, on va essayer que qu'il ne le soit pas, hein, parce qu'on va traiter d'un référentiel, le référentiel Calliope. Moi, je vous avoue que je ne connaissais pas ce référentiel. Je l'ai appris donc par des invités qui sont présents ici. Alors, c'est un référentiel. Qui a été, si j'ai bien compris, créé en 2018 et qui concerne toutes les formations professionnelles initiales et continues, quel que soit le secteur. Alors, donc, il concerne bien entendu aussi le secteur du travail social. Et donc, nous avons... ce soir comme invité deux invités qui sont des formateurs et puis qui vont nous expliquer quelles sont leurs questions, les incidences aussi sur leur pratique en tant que formateurs, puisque ce référentiel doit obligatoirement s'appliquer pour que les formations puissent, avoir des sources financières, que ce soit par les pouvoirs publics, l'État, les régions, les départements, ou par les fonds d'assurance formation dans le privé. Voilà, donc ça conditionne vraiment le financement. Le respect du référentiel Calliope est vraiment obligatoire pour financer la formation. Alors, nous avons deux invités formateurs, Tini Nan. Bonsoir Tini Nan.
Bonsoir.
Alors Tini Nan, tu es au départ assistante sociale et tu es dans le secteur de la formation depuis un moment, et donc tu vas nous parler de effectivement ce que tu as pu observer, voir dans ta pratique professionnelle en tant que formatrice en matière de formation continue des travailleurs sociaux, c'est bien ça? Je n'ai pas compris.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu une expérience dans la formation. Donc, effectivement, je suis assistante de service social de formation initiale. J'ai pratiqué pendant une bonne dizaine d'années en protection de l'enfance, principalement, mais aussi en insertion. Et dans mon parcours professionnel, à un moment, j'ai fait le choix de... basculer dans la formation, sachant que ça faisait quelques années que j'étais formatrice occasionnelle en tant que professionnelle et apportant mon expérience professionnelle dans les formations de travailleurs sociaux, assistante de service social, éducateur, conseillère en économie sociale et familiale. Et j'ai fait le choix de devenir formatrice à part entière, cadre pédagogique au sein d'un centre de formation pour travail social. Et j'y ai exercé pendant 3 ou 4 ans à ce poste-là. C'est donc de cette place-là que je vais parler ce soir et témoigner de l'expérience et de l'impact de ce référentiel Calliope sur les formations en travail social.
Merci Kélinane. Et notre second invité, formateur, et Briac. Bonsoir Briac.
Bonsoir.
Alors toi, j'ai compris que tu es anthropologue et que tu assures des formations aussi, notamment, pas que, dans le secteur du travail social.
Oui, alors principalement dans le travail. Alors moi, je me désigne pas comme anthropologue parce que je suis ni enseignant ni chercheur. J'ai fait des études d'anthropologie et du coup, donc, je me désigne plutôt comme anthropologue intervenant.
D'accord.
Alors moi, j'interviens en fait, je suis un peu nomade en formation dans le sens où moi, j'interviens sur les questions interculturelles, sur les questions relatives à la lutte contre les discriminations, sur les questions liées au racisme et au sexisme dans le travail social, sur les questions de genre et d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui fait que du coup, comme c'est des formations qui sont vues comme très optionnelles par un certain nombre d'institutions,
j'imagine.
Je travaille pour à la fois des entreprises qui sont des organismes de formation, pour des écoles de travail social, au sein d'institutions de santé, hôpitaux psychiatriques également, donc, et aussi pour des collectivités territoriales. Ce qui fait que du coup, je suis vacataire auprès de différents... Ce qui fait que du coup, j'ai un peu un point de vue comparatif sur les manières par lesquelles écoles de travail social, associations et entreprises de formation s'emparent de ce truc-là pour un résultat qui, moi, j'annonce tout de suite mon point de vue. Hein, c'est quelque chose que je subis, Calliope, et qui, en fait, va complètement à côté de ce qui me semble être les enjeux centraux de la formation et de la pédagogie auprès des travailleurs sociaux.
Voilà, Briac a déjà campé les choses à son niveau. Merci Briac, nous y reviendrons bien sûr. Et puis autour de la table, deux autres personnes. Alors, il y a Grégory qui vient habituellement.
Bonsoir.
À toutes les émissions. Bonsoir Grégory. Donc Grégory intervient comme philosophe dans l'émission.
Prof de philo.
Prof de philo. Dans le lycée et à l'université, oui. Et bon, animateur de café philo, etc. Donc là, il ne connaît pas le sujet.
Par la force des choses, je peux même pouvoir en parler.
Ah,
puisque,
je croyais que...
ça dérive évidemment de traités européens, de directives, et on va pouvoir peut-être relever toute une logique qui se met en place à travers ce référentiel, puisque... il y avait dans notre État-nation une visée autrefois jusqu'en 2017, une visée de diplôme avec une référence, c'était l'obligation scolaire, et il y a depuis quelques années, parce que ça a été induit par les politiques européennes, il y a eu l'avènement de cette notion de compétence, de certification de compétence, de renoncement à l'évaluation, parce que c'est une norme européenne, des formations par un diplôme, par un niveau de diplôme. Et aujourd'hui, on valorise une formation, un temps de formation, même si le temps de formation n'est pas sanctionné par une certification. Il y a tout un travail qui est fait sur la manière dont on peut valoriser la formation. Et tout ça relève d'une stratégie européenne dont on pourra parler. Parce que ce référentiel, il est absolument pas indépendant de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et c'est l'évaluation des compétences, d'ailleurs, on pourra en parler, parce que là encore, nous sommes en période du bac, puis des examens à l'université. Donc il y a la possibilité d'évaluer la réussite scolaire à l'aune des diplômes obtenus. Et il y a, depuis quelques années, une nouvelle évaluation qui se met en place à travers les compétences acquises en cours de formation. Et tout ça prend de plus en plus d'importance dans le cadre des formations, dans le second degré et à l'université, puisque l'université nous demande aussi d'évaluer des compétences. Donc je crois qu'il y a toute une logique qui se met en place. Et vous avez beaucoup de choses à nous dire ce soir. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans le domaine de l'action sociale, mais
je ne pensais pas que pour des formations non professionnelles, enfin, c'est peut-être pas forcément le référentiel qu'en Léopi, mais vous êtes dans toute cette logique de de compétences.
La notion de qualification professionnelle, de compétences professionnelles, elle gangrène aussi l'institution scolaire aujourd'hui. Hein. C'est une vraie finalité. Hein. Il ne s'agit plus de connaître pour connaître, comme le disait Aristote dans la première phrase de la Métaphysique, livre 1. Tous les hommes désirent connaître pour connaître. Non, aujourd'hui, il s'agit de connaître pour être compétent et être opérationnel. Et le caractère opérationnel de la formation est évalué à l'aune de normes qui ressemblent pas vraiment à une norme établie par l'administration, parce que c'est quand même un référentiel un peu curieux. On a l'impression qu'il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup d'associations qui prennent part aux évaluations, mais derrière tout ça, il y a toute une logique dont on pourra parler.
Bon, merci Grégory. Notre dernière invitée, Diana. Bonsoir Diana. Alors, Diana, éducatrice Bonsoir. Spécialisée, vient ce soir au départ pour nous faire une petite information. Qui est en dehors du thème de l'émission, vous voulez profiter de ce temps d'émission pour nous informer. Voilà, vous verrez tout à l'heure. Et puis, elle est là, Diana. Donc, Diana, tu peux intervenir pour poser des questions. On avait pensé plus peut-être à la fin de l'émission, mais voilà, ça peut évidemment, j'imagine bien, étant éducatrice spécialisée, même si tu es sur les pratiques de terrain, mais pas dans la formation, c'est vrai que tôt ou tard, le référentiel Calliope, si tu fais une formation dans le cadre de la formation continue, si j'ai bien compris, Briac et Tininan, toutes les formations continues. J'emploie les termes un peu dans du secteur privé parce que mon expérience professionnelle passée, c'est depuis longtemps retraite, c'était la terminologie, donc ça peut être complètement dépassé, mais enfin voilà. Donc le référentiel Calliope s'applique, si j'ai bien compris, pour toutes les formations courtes.
Il s'applique à toutes les formations initiales ou continues dans le champ du travail social, dans la mesure où on est de toute façon dans de la formation professionnelle.
Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. Ok, donc voilà, c'est un référentiel, si j'ai bien compris, qui existe depuis 2018, qui a été mis en place par les pouvoirs publics, le ministère peut-être du travail de l'époque, enfin voilà. Donc, on me l'a envoyé. J'avoue que, honte à moi, j'ai pas réussi à le lire complètement en entier par le menu, et pourtant il est pas gros, hein. Il y a 41 pages.
Moi, j'ai envie de dire gloire à toi de ne pas l'avoir lu jusqu'au bout.
Tu encourages la paresse, Briac.
Oui, tout à fait, sur ce domaine-là. Je le dirai ensuite pour quelle raison.
Ça vient montrer à quel point il est difficile de comprendre la logique qui est exposée dans ce document de présentation du référentiel.
Bon, des formateurs qui sont confrontés dans leur pratique et qui doivent vraiment, nous expliquerons tout à l'heure comment ça se pose très très concrètement pour eux, ont du mal. Ça ne m'exonère pas quand même de ne l'avoir pas lu en entier. Je me dis peut-être après, j'y arriverai. Alors écoutez, pour commencer, je suis tombée dans un livre qui a été écrit par le sociologue Michel Chauvière connaît très très bien le travail social. Il est... on va dire retraités, j'en sais rien si on peut le dire, parce qu'ils continuent peut-être à travailler à temps partiel, à écrire, mais enfin bon, il a un certain âge et il a été longtemps chercheur en sciences sociales au CNRS, enseignant universitaire et dans des instituts professionnels. Alors, il a écrit un de ses derniers livres qui s'appelle « Sol et sous-sol d'un boomer » aux éditions L'Harmattan, qui est un peu, comment vous dire, un peu rétrospective de sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie de militant, sa vie, et puis à un moment donné, eh ben, il parle de notre sujet de ce soir, le référentiel Calliope. Écoutez, ben, je vais vous lire le passage, voilà, c'est, je me suis dit, bon, ouais, c'est plus agréable à lire que le référentiel, mais c'est bon, c'est une page. Alors, j'y vais. Depuis 2018, qu'on soit d'ailleurs public ou privé, s'impose notamment un référentiel national qualité, Calliope. Cette certification payante fonctionne comme un label conditionnant l'accès aux fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle. Mais cet instrument garantit moins une intelligence des choses et des enjeux qu'une conformité des processus formels, information du public, adaptation des prestations, suivi et évaluation, adéquation des moyens, qualification du personnel, amélioration continue, etc., etc. Pas étonnant que les enseignants comme les formateurs ne s'y retrouvent plus. Les pratiques d'hier leur laissaient des marges d'interprétation et d'initiatives pédagogiques. Elles sont maintenant grignotées par des référentiels de formation et blocs de compétences préconstruits et impératifs. Oubliez les patientes initiations disciplinaires et interdisciplinaires reliées aux difficultés connues du terrain, a fortiori la réflexion épistémologique en préparation d'un esprit de recherche. L'apprentissage d'une pensée du social, analytique et critique, comme la transmission des savoir-faire et savoir-être, en pâtissent très sérieusement. Pire, il en est de même dans bon nombre d'universités, réorientées elles aussi vers l'employabilité, et où les autorités procardent les arguments académiques qui y feraient trop obstacle. Partout, investissement, stratégie, efficacité, mais aussi efficience, semblent devenus les maîtres mots de ces organisations spécialisées. On peut donc penser que l'enseignement supérieur, comme les formations professionnelles, sont en train de se désinstitutionnaliser progressivement, ce qui amène un sérieux recul de la qualité de l'offre, de la liberté et du plaisir d'apprendre, alors que progresse la solvabilisation des études, à moins d'être déjà dépendant d'un employeur. Pour tenir bon, en dépit de cette lourde ingénierie, beaucoup de ces lieux historiques de formation, publics ou associatifs, sont aujourd'hui devenus d'étonnantes machineries, avec des directions expertes dans tous les domaines pour soi-disant affronter le marché. En stratégie, en organisation, en ressources humaines, en qualité, en communication, en pédagogie aussi, etc. Partout, la verticalité du fonctionnement est renforcée, faisant régresser l'horizontalité démocratique. Et on y fait plus que jamais appel à des consultants et évaluateurs extérieurs, souvent grassement payés. Finalement, les grands vaincus, ce sont les métiers qui y perdent leur identité, leur culture, et leur droit relatif de peser sur les finalités et les conditions de travail, de formation et aussi de terrain, des modalités de recrutement et des contenus de formation. Les voilà désarmés. Et c'est une attaque, parmi d'autres, à la démocratie au travail. D'où, évidemment, une activité en berne et un recul du goût de faire. Point d'exclamation. Bon, c'est un passage percutant, comme le sont comme les Michel Chauvière, où j'ai l'impression quand même qu'il fait brièvement, je ne dis pas le tour de la question, mais enfin il campe beaucoup, beaucoup de choses. Bon, tout un processus qui se généralise, je ne sais pas comment dire, je parle de procédure, c'est au-delà, de standardisation, peut-être de réduction par rapport à ce qu'est, en tout cas, le champ du travail social. Bon, on peut dire peut-être aussi, peut-être pour les métiers dits techniques, c'est peut-être plus simple, j'en sais rien. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, cette analyse est très sévère.
Intéressante. Après, parler de démocratie au travail et regretter ce qui pouvait exister en termes de formation en disant on a beaucoup perdu, alors qu'on n'était peut-être pas dans une évaluation précise des dispositifs, et regretter simplement l'apparition de ce référentiel sans se demander à quel type de besoin il répond, à quel type de logique il répond, ça me semble aussi un peu court. Voilà. Donc,
peut-être là, je vais dire un peu. Non, ma façon. Tant pis. Je sors peut-être de mon rôle d'animatrice, mais moi, ça me parle bien quand même, ça, parce que dans ma pratique professionnelle aussi, j'ai été dans les institutions représentatives de personnel, donc j'ai suivi, au moins dans le secteur privé, toute l'évolution de la politique de la formation permanente. La formation permanente, je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental dans un itinéraire professionnel. Moi, j'ai fait plusieurs formations qui m'ont énormément aidée pour être contente dans mon travail, mieux répondre en tant qu'assistante sociale aux besoins des usagers. Et c'est vrai que ces formations essentiellement cliniques, très, j'allais dire, libres, et quand même avec le contrôle des organisations représentatives du personnel, syndicats employeurs, syndicats salariés, les fonds d'assurance continue étaient gérés de façon paritaire. Tout organisme de formation devait être quand même accrédité au titre de la formation permanente, mais pas avec du référentiel comme il était là. Donc, quand il parle de démocratie au travail...
Travail, ça n'a jamais existé. Il y a eu des luttes au travail, il y a des gens qui se sont mobilisés et qui ont gagné des droits, et des droits sur lesquels on est revenu. Et c'est peut-être ça aussi la réalité. Démocratie au travail. Société vit-on?
Pas trop. D'accord. Bon.
Moi, du coup, j'ai une petite question. En fait, le référentiel, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et du coup, il est censé servir à quoi? Enfin, vous aider en quoi dans votre travail de formateur? Concrètement. J'imagine quand vous la présentez un peu comme ça.
Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux.
C'est obligatoire. Mais à quoi ça sert? Même si c'est obligatoire, à quoi ça sert? Je dirais des règles qui sont obligatoires.
Ce référentiel, c'est une certification qualité. Mm-hmm. Donc, il a pour vocation de pouvoir mettre en place une forme de contrôle et de suivi sur la qualité des formations qui sont dispensées dans le cadre des formations professionnelles. Ça, c'est très générique et c'est très large. Après, c'est ramené au travail social. je pense que de toute façon, ça pose question, mais ramener au travail social, ça en pose voilà, un certain nombre qui sont particulières. Qui sont d'autant plus particulières. Ce que souligne bien Michel Chauvière dans son texte là, c'est les différentes logiques en fait qui sont à l'œuvre et sur lesquelles je pourrais revenir moi avec mon expérience professionnelle ensuite avec des exemples concrets. Mais là, ce que je souligne, c'est vraiment ces logiques de déjà la logique libérale. Il parle bien de certification payante. Mmh. On voit qu'il y a quelque chose d'une machinerie qui a vocation à engrainer quand même, à engranger un certain nombre de bénéfices pour des organismes certificateurs. Mmh. Donc ça, c'est voilà, c'était pas l'objectif premier, mais en tout cas, c'est un des effets de ce système-là. Ça a généré donc de la rationalité économique, des systèmes de sous-traitance. Donc, il le nomme pas comme ça, mais on l'entend bien dans son discours, et des déglissements sur les logiques d'évaluation, justement, ou comment on passe de l'évaluation de la qualité des formations, est-ce qu'elles sont bien faites et correspondent réellement aux besoins des personnes à qui on s'adresse, à des logiques de contrôle et de surenchère, en fait, de critères administratifs et de bureaucratisation, en fait, de ces démarches-là.
Si je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais est-ce que ça veut dire qu'on va mettre plus de moyens aujourd'hui dans des outils de contrôle que donner des moyens à des formateurs, à des travailleurs sociaux, des vrais moyens pour accompagner, pour former, etc.
C'est exactement les effets produits.
Okay, c'est ce qui se passe aussi dans le social, en fait.
On est sur cette logique-là.
Ce que je disais à la dernière émission, c'est le logiciel et c'est le quantitatif et ce qu'on met dedans. Enfin, tout comme moyen de contrôle.
Oui, on reste dans la logique du new public management avec comment on peut contrôler et réguler l'activité des pouvoirs publics de la même manière que n'importe quelle activité économique libérale.
Et donc d'enrichir des boîtes privées comme à France Travail. Je ne peux pas m'empêcher de penser à France Travail où il n'y a plus de formation qualifiante pour les demandeurs d'emploi. Et à côté de ça, on va enrichir des boîtes privées pour apprendre aux gens à faire leur CV ou autre, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de structures qui accompagnent les gens sur ces questions-là. Et tout ce qui est formation qualifiante, électricien, informaticien, peu importe, ça n'existe plus, quoi. Ça a été remplacé par... voilà. J'arrête là.
Ce que je peux donner comme exemple concret, moi, dans ma pratique de formatrice et cadre pédagogique dans un centre de formation pour travailleurs sociaux, c'est que du coup, ça a amené l'obligation. Il y avait un enjeu, en fait, de répondre à tous les critères Qualiopi pour avoir le renouvellement de l'agrément, l'autorisation à pouvoir dispenser des formations en travail social, ce qui fait qu'en fait il y a eu un focal et une course à répondre aux obligations et aux logiques administratives aux dépens finalement des questions pédagogiques et du contenu des formations qu'on pouvait proposer. Donc concrètement, on s'est retrouvé à être pris par la temporalité, les échéances des audits en lien avec Qualiopi, pour voir si on répondait bien à tous les critères. Alors, pour vous présenter un petit peu le référentiel Qualiopi, c'est 7 critères qui se déclinent en 32 indicateurs, auxquels on ajoute 10 indicateurs spécifiques quand un organisme est en lien avec de l'apprentissage ou de la formation certifiante. Donc, autant dire tous les organismes de travail social. Donc, voilà, on a une quarantaine d'indicateurs auxquels il faut répondre très précisément, et ça rentre dans des détails qui peuvent être des fois assez absurdes. Alors, on dira qu'il y ait de la logique de contrôle et de la veille sur la qualité des formations, c'est une très bonne chose. Mmh. Sur le principe, oui, c'est une très bonne chose. Quand on en arrive, en fait, à ce que cet enjeu-là, il prime sur, finalement, ce qu'on dispense comme contenu, parce que, finalement, le temps des formateurs est pris sur l'élaboration de tableaux de suivi, des fiches pour pouvoir justifier que on a bien fait telle ou telle tâche administrative en termes de pointage, en termes de comment on appelle ça, l'émargement, en termes de présentation des contenus de formation, en termes d'évaluation à chaud, à froid. Donc voilà, c'est en fait autant
attestation de fin de formation.
Attestation de fin de formation, etc. Et qu'en fait, chaque opérateur, je vais le dire comme ça parce que c'est cette logique-là, chaque opérateur de la formation doit répondre de la même manière à ces obligations-là. Donc vous avez le centre de formation qui va produire tout un tas de documents pour bien montrer qu'il a fait le job du début à la fin. Qu'il a fait signer les étudiants, qu'il les a accueillis correctement, qu'ils ont été correctement informés sur le contenu de la formation, que voilà, que les formateurs qui dispensent les formations ont les références requises pour le faire. Donc il y a tout ça qui, dans la logique, encore une fois, elle est tout à fait louable. Sauf que ce qui est demandé au centre de formation va être demandé également au formateur externe, et là du coup Briac pourra en attester, qui va être lui employé en tant que prestataire pour dispenser ce contenu de formation-là. On va lui demander exactement la même chose parce que s'il n'a pas la certification Calliope, il ne peut pas exercer. Et donc, on va demander ça aux prestataires également ou aux vacataires de pouvoir aussi faire patte blanche sur la formation qu'il va dispenser. Et donc, pour une même formation, on va avoir en fait une multiplication des...
De tâches.
De tâches et puis de formalisation de ces justifications de bons process qui prennent un temps infini, bien évidemment à moyen constant, voire même à moyen réduit, ce qui fait qu'en fait, en tant que formateur, on se retrouve à faire plus d'administratif qu'à penser les contenus de formation ou à même pouvoir les dispenser auprès des étudiants.
Ah, carrément.
Oui.
Donc, ça, je peux envoyer une... J'ai plein d'exemples. Hein. Si vous voulez vraiment des choses très concrètes sur ce que ça prétend être, est-ce que c'est en réalité, est-ce que ça n'est pas.
Alors, pour le coup,
Alors, je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'on en discutait un petit peu avant l'émission. Moi, je suis incapable de dire si toutes les évolutions là que je décris, elles procèdent uniquement de Calliope ou déjà d'une évolution antérieure. Ce que je constate, c'est que tout ce qu'il y a de plus insignifiant dans mon métier augmente drastiquement depuis la mise en œuvre de Calliope. Alors, pour mon métier, alors moi, que j'explique un peu simplement ce que je fais. Hein. Je suis sociologue, anthropologue de formation, je suis sur des métiers de la relation humaine, sur lesquels j'essaie de leur apporter quelques concepts et méthodes des centres sociaux pour essayer de travailler leur relation à l'altérité dans les métiers qu'ils font, que ce soit dans la protection de l'enfance, à l'hôpital, dans le domaine de la santé mentale, dans l'insertion et compagnie. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur soi-même, sur la relation qu'on tisse à l'autre et ce qu'on fait de la relation... à l'altérité culturelle, sociale, religieuse, dans des métiers où le principal instrument de travail, c'est la relation qu'on est en capacité de tisser avec autrui.
Pour le moment.
Alors, moi, ce que je constate sur mon métier, qu'est-ce que ça implique? Ce que j'ai appelé une augmentation faramineuse de la paperasserie scannée. C'est-à-dire que, donc, Tinlan, t'as un peu cité tous les documents, je peux t'en rajouter d'autres, mais surtout, il y a un autre point qui est intéressant, c'est de plus en plus, maintenant, il y a duplicata des feuilles d'émargement. Parce que l'organisme qui t'envoie, il veut avoir son truc avec sa charte graphite, son tampon, son numéro de ciré, la date de naissance de sa grand-mère et je ne sais quoi. Mais à côté, l'institution au sein de laquelle tu interviens doit aussi avoir son modèle d'émargement. Ce à quoi j'ajoute que tout le monde adore l'informatisation là-dedans. Donc parfois aussi, on t'envoie une appli, des trucs à signer sur un... Et parfois, dans le doute, si jamais l'appli marche pas, faut aussi le papier. Ce qui fait que du coup, moi, je dois faire signer les gens 3 ou 4 fois par jour sur des supports différents, ce qui en plus génère de la perdition. Parce que si bien un truc dont le formateur et les stagiaires ont rien à foutre, c'est les émargements. Donc si tu veux, ça veut dire que moi je dois me prendre la tête là-dessus, sur on va faire tourner cette feuille-là dans le sens des aiguilles d'une montre, celle-là dans l'autre sens, pour pas qu'il y ait des gens qui oublient de signer, sinon ils sont portés absents.
Alors, excuse-moi, très concrètement, c'est-à-dire que tous les personnes participant aux formations doivent émarger pour tous les cours.
Émargement matin et après-midi, au cas où les gens s'enfuient. Avec, on nous demande aussi du contrôle. Alors, si vous voulez, par exemple, c'est des trucs où parfois, il y a des gens, ils ont l'obligation. Une éducatrice, elle a de jeunes enfants, elle va te dire que moi, je vais partir à 16h30 et pas à 17h. Je suis censé noter qu'elle est partie à 16h30, sauf que du coup, si, enfin, je ne peux pas être en même temps l'acteur administratif de ce que je suis en train de faire. Quoi. Il y a vraiment un truc où parfois, c'est, tu demandes c'est, qu'est-ce qu'on attend.
Une vérification complète des présences.
Et alors, pour que vous ayez un peu une image, hein, sur le, pour une formation de deux jours dans un hôpital, je reçois. Une enveloppe sous papier Kraft, il y a 200 papiers là-dedans. Et comme ils veulent rien, donc il faut que je leur scanne, donc un par un avec mon téléphone, passionnant comme activité. Deuxième point, une augmentation hallucinante de l'informatisation et de la smartphonisation. Mais c'est vraiment le gros kiff de plein d'organismes d'intervention, c'est quand les gens font des tests sur leur smartphone, évaluent sur leur smartphone, signent sur leur smartphone. Alors ça implique que donc, on doit tous être obligés d'avoir un smartphone. Alors pour le coup, moi, pour m'en débarrasser parfois, moi je fais même croire à certaines. Hein, moi j'ai pas de smartphone, mais vous sortez des papiers. Et je pense pas que les gens. Il y a aussi, je me balade un peu partout, on tombe aussi parfois sur des zones fort heureusement encore protégées, où les gens n'ont pas de signal, ce qui fait que du coup, ton appli, tes machins, tes trucs, ça ne va pas marcher parce que personne ne peut signer dans la salle. L'autre point très important là pour le coup sur mon activité, moi comme de nombreux collègues, on a souvent des échanges là-dessus, les smartphones dans des instances de formation, c'est une galère absolue. C'est-à-dire que le nombre de personnes, et c'est pareil, il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement les jeunes ou les plus jeunes que nous, c'est vrai de toutes les tranches d'âge, le nombre de gens qui sont à moitié en formation, à moitié sur leur ordi, à moitié sur leur téléphone, qui regardent tout, qui décrochent en fait en permanence. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je trouve qu'en tant que formateur, il faut essayer de nouer un pacte avec le groupe. Qu'est-ce qu'on fait de ces outils-là? Comment on fait pour maintenir l'attention qu'on se donne les unes les uns aux autres et compagnie? Donc c'est aussi une tâche qui arrive en plus. Alors, quelle cohérence on a si on leur dit que ce truc-là vient nous pourrir l'ambiance en formation et qu'en même temps, attendez, pour signer, vous sortez votre smartphone, pour évaluer, vous sortez votre smartphone, pour répondre aux questions, complètement.
Ah, d'accord.
Troisième implication, alors claire et nette et majeure depuis 5-6 ans, je dirais, une baisse du temps consacré à la pédagogie, aux échanges sur la pédagogie. Et j'irais même parfois, je me demande, est-ce que j'ai des interlocuteurs pédagogues dans l'entreprise en question. C'est-à-dire que parfois, quand il m'arrive de discuter des contenus et des thématiques sur lesquelles j'interviens, j'ai l'impression de parler à des personnes qui pourtant sont désignées responsables de formation ou chargées de formation, qui n'ont pas grande conscience ni de ce que je fais, ni de comment je le fais, ni sur quel sujet. Autre évolution intéressante, une anonymisation des intervenants. Quand j'ai commencé ce métier, moi maintenant ça fait une vingtaine d'années, donc il y avait déjà ce truc surtout moi sur le côté socio-anthropo, donc je devais bosser pour plusieurs employeurs, mais quand même un organisme pour lequel je travaillais régulièrement et pour lequel j'avais créé des contenus, il y avait quelque part mon nom, mon prénom, qu'est-ce que j'ai fait comme études, donc quoi, enfin des gens dont on peut savoir, tiens, c'est qui le formateur, c'est qui la formatrice, qui est cette personne qui va venir m'apprendre des choses. Là maintenant, ils ont tous des équipes hyper compétentes, un vivier incroyable, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce qu'ils savent faire, ni ce qu'ils sont censés avoir comme compétences. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que même maintenant, ça se voit sur les catalogues de formation. Il y a quelques mois, j'ai créé complètement un contenu, vraiment pour un truc spécifique, pour une institution spécifique, pour un organisme spécifique. Ils me rentrent ça dans leur machine pour avoir un PDF magnifique, etc. Et quand je reçois le programme, il y a tout ce que j'ai mis, sauf mon nom et mon prénom. Il y aura bien sûr quelqu'un de très qualifié qui va le faire, mais alors celui qui a bossé le truc, il n'existe plus. Ce que j'observe aussi, c'est une multiplication des interlocuteurs et des interlocutrices. Alors ça peut-être, Tininane, tu nous diras, mais je fais l'hypothèse qu'en interne, dans beaucoup d'écoles de travail social, ils sont tellement la tête dépassée par l'administratif que du coup, ils se répartissent les choses pour que ce soit pratique pour eux. Mais ce qui fait que moi, par exemple, je donne un exemple, une école de travail social où je vais aller 8 jours dans l'année pour former les éducatrices de jeunes enfants sur les questions interculturelles, je peux avoir 3 ou 4 interlocuteurs parce qu'il y a celui qui a le domaine de formation 1, celui qui a le domaine de formation 2, celui qui a le domaine de formation 3. Autre évolution très intéressante, le turnover hallucinant des responsables de formation. Moi, dans mon entourage professionnel proche, j'ai vu plein de personnes se barrer, épuisées, en épuisement professionnel, laminées. Et surtout des personnes qui sont bossées pour être ingénieurs pédagogiques, pour réfléchir des projets, etc. Et qui se retrouvent devant un ordi toute la journée à gérer des salles, des tampons, des flashcodes, des trucs comme ça. Des chartes graphiques sans aucun intérêt. Mais attention, qui doit être présente sur chacun de mes diaporamas. C'est-à-dire que moi, les gens pensent que j'invente des... Moi, je prends des concepts, et des, je lis de la socio, je lis de l'anthropo. Alors, je fais partie aussi, je pense, des rares dans mon activité à encore s'intéresser à ce qui se dit et ce qui se traite à l'université. Ça aussi, c'est du temps de travail, mais pour moi, qui est intéressant. Là, pour le coup, non. Ce qui importe l'organisme, c'est est-ce que la couleur est bonne, est-ce que le format est bon. Ce qui fait que parfois, ma tâche, c'est de reprendre un contenu que j'ai fait pour l'organisme A et le rentrer dans un diaporama. Or, je ne vais rien changer du contenu parce que c'est exactement la même formation, mais je perds juste du temps à être conforme. Une décharge administrative sur l'intervenant, qui est alors à titre comme ça indicatif, pour moi, le pire des plus maboules de Calliope dans mes employeurs. Après deux journées de formation de 6 heures, donc sur laquelle moi je ne suis rémunéré que deux fois 6 heures. Ma prépa, il n'y a pas de rémunération. Mmh. Et ensuite, les 3 heures que je passe derrière, alors scanner les trucs, alors recopier, etc. Bah ça, je me demande, tiens, est-ce que je suis en train de travailler là ? Est-ce que c'est impliqué dans le contrat ou pas ? Ou est-ce que je suis un acteur administratif bénévole de l'institution ? L'autre point intéressant, c'est tout le développement de la com, du coup. De ces organismes, alors, qui prétendent tous faire du sur-mesure. C'est faux à 95% des cas. J'ai déjà eu même un échange avec une responsable de formation qui me mentait au téléphone. Non mais Briac, on a toujours fait des choses sur-mesure. Je lui dis, est-ce que tu veux que je te renvoie les 60 programmes tout faits que tu m'as envoyés pour que tu constates bien que c'est tout le temps la même chose, quelle que soit l'équipe, etc. Un faux truc, quoi. De fausses équipes. C'est-à-dire qu'on est tous censés être corporate. Alors, je suis invité 4 fois par semaine à une réflexion, un barbecue, etc. Pour, avec des gens que je ne connais pas, avec qui je suis censé être soudé, parce que tu comprends, je défends la marque avec eux, mais sauf que moi, c'est 5 jours de travail par an. Et peut-être en dernière... alors, on reçoit maintenant des contrats.
Pardon, j'ai mal compris.
Des contrats.
Oui.
Alors, quand on reçoit des contrats, parce que c'est pareil, il y a plein de ces organismes qui pensent qu'être salarié, ça n'existe plus ou ça ne doit plus exister. Quand même, que vous ayez bien conscience, dans une école de travail social l'année dernière, une école associative, une vieille école ancienne, etc., on m'a expliqué gentiment que le projet de l'école n'est de plus prendre de salariés. Là, vous avez de beaux projets, mais moi je vais demander à parler à la RH et puis je vais. C'est donc une école de travail social, c'est de la formation initiale, donc c'est dans leurs locaux, c'est avec leurs étudiantes, c'est à leur demande, avec leur. Donc c'est vraiment, c'est un contrat de travail. Donc j'ai dû monter jusqu'à la RH, mais même quitte à menacer pour dire écoutez-moi bien, soit vous me faites un contrat salarié, sinon je peux venir aussi bêtement dans votre truc et puis faire requalifier en contrat de travail deux jours après, ce qui fait que du coup, exceptionnellement, j'ai le droit à ce régime de faveur. Dernier point qui me semble...
Excuse-moi, oui. S'il n'y a pas de contrat, il y a quoi ?
Une facture.
Oui, c'est mieux pour une facture.
On demande aux intervenants, aux formateurs d'être prestataires, en fait, et de se mettre en statut auto-entrepreneur.
Parce que pour eux, ils n'ont pas à s'emmerder avec un numéro de statut.
D'accord, oui.
Les histoires
c'est ça.
Vous comprenez un peu l'enjeu, ça veut dire que pour cette école de travail social, là, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient plus, etc., ils me rajoutent dans la liste des documents envoyés, mon attestation d'assurance professionnelle.
C'est ça.
Ils vont quand même pas payer l'assurance des gens qui viennent bosser auprès de leurs étudiants. Donc ça aussi, du coup, c'est comme donc moi, il faudrait que je paye en plus pour m'assurer moi tout seul dans des espaces. Je rappelle associatif, association.
Je veux bien rebondir là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle l'ubérisation des formations.
Est-ce que je peux ajouter juste un petit truc qui me semble important
aussi,
sur le côté
des appels,
des applis, de l'informatisation.
Oui, bien sûr.
Moi, j'y résiste autant que faire se peut. Mais en fait, sur les applis, il faut bien comprendre que si je les suivais à 100%, j'aurais 6 ou 7 applis dans mon téléphone, une pour chaque truc, ou alors ils t'envoient le contrat, les signatures, les machins, les trucs et compagnie. Mais figurez-vous que sur les écoles de travail social pour lesquelles je travaille, il y en a deux qui récemment se sont fait hacker.
Oui.
Donc ça veut dire que ma carte vitale, mes moyens de paiement, ma carte d'identité et celle de plein de collègues, et ensuite on nous renvoie un truc pour nous avertir qu'il faut tout renvoyer. Et on nous prévient, il faut bien être vigilant, parce que quand même il y a des gens qui ont notre carte vitale et notre RIB. J'aimerais savoir comment je peux faire pour être vigilant avec des documents que j'ai confiés à une institution et donc qu'elle n'a pas été en mesure
de protéger.
Et ces applis, ensuite, elles n'ont pas arrêté de faire des bugs. Ce qui fait que j'ai reçu plein de messages très alertes m'expliquant que, attention, j'ai toujours pas signé mon contrat d'il y a 4 mois, alors que j'ai déjà signé sur la vidéo. Mais parce que ça relançait des messages d'erreur et tout. Donc c'est vrai, un truc de fou. Calliope, ça rend fou.
Comment dire, ça, c'est quand tu n'es pas embauché, enfin quand tu n'interviens pas comme auto-entrepreneur, quand tu demandes la carte
les
vitale
deux.
Et machin.
Non, les deux.
Ah bon? Les deux.
Ouais. Alors, c'est aussi ce qui se passe dans le travail social sur le terrain. Quoi. En fait, ce que je disais aussi à la dernière émission, en fait, c'est que les personnes qui se présentent aujourd'hui, que nous, on accompagne en tant que travailleurs sociaux, qu'on va orienter sur France Travail, tout ce qu'ils ont à leur proposer, c'est auto-entrepreneur, quoi, ou micro-entreprise. Donc, c'est effectivement, ouais, c'est l'ubérisation, c'est... on va vers tout ça. Et beaucoup de gens coulent parce qu'ils ne savent pas en plus. Enfin, c'est compliqué pour eux de gérer tout ce qui est administratif, etc. Tout le monde n'a pas non plus... Mais j'ai...
Ok, oui, Kenya, tu veux...
Moi, je veux bien développer cette question d'ubérisation, mais je pense que ça prendrait un petit moment.
Peut-être
je si vous voulez faire
une petite pause. D'accord, ok. On fait une pause, Guy, d'accord, le technicien que je n'ai pas présenté tout à l'heure. D'accord. Voilà, là.
Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Le temps est bien court, d'en bas jusque là-haut. On se tourne autour, et puis s'envolent les mots. Là-haut, dans sa tour, on se sent bien au chaud. Attends un peu, j'arrive, le temps de changer de rive. Quand se sont envolés les mots, est arrivé le mauvais jour. Il faisait si chaud, on se parlait d'amour. On se racontait une histoire, et le cœur y était. C'est drôle, il se fait tard, on n'en revient jamais. On se tournait autour, on se jetait à l'eau. Le chemin était plus court, quand on avait du beau. C'était le début de l'histoire, on s'aimait à jamais. Mais un peu plus tard, sont venus les regrets. Le temps est bien court, d'en bas jusque là-haut. On se parle d'amour, mais un jour tout sonne faux. Qu'est devenu notre histoire, garde-la bien au chaud. Il ne sera jamais trop tard, mais il est peut-être déjà trop tôt.
Voilà, vous êtes toujours sur, pas toujours, mais vous êtes sur Radio Libertaire, voilà, 89.4 MHz, la voix de la Fédération Anarchiste, et puis l'émission est en pause musicale, et va reprendre là dans quelques instants, le temps que j'annonce un peu ce qu'on vient juste d'entendre. Vous venez donc d'avoir comme musique, chanson, Empêché de jeunesse, de Pascal Loquin. Et puis Jazz à Jouan, de Paris au Jazz.
Bon, nous reprenons l'émission L'antenne du social, donc qui ce soir traite le référentiel Calliope et ses incidences dans les formations de travail social et l'exercice professionnel des formateurs. Donc nous avons autour de la table deux formateurs, Briac et Tininan, et en plus Grégory, l'invité habituel, philosophe, professeur de philosophie, et en plus ce soir Diana, éducatrice spécialisée. Alors nous avons déjà eu des échanges pendant à peu près une heure, et je serais bien en peine de résumer un peu, j'avoue. C'est que dire en résumé de ce référentiel Calliope Tininan.
On s'est quitté avant la pause sur cette idée d'ubérisation des formations dans le travail social, et je me propose de vous en faire une illustration un peu concrète de ce que ça peut représenter au niveau des centres de formation en travail social, de la place où j'étais, et l'impact que ça peut avoir sur les formateurs externes auxquels on fait appel régulièrement. Donc pourquoi je parle d'ubérisation ? Parce qu'en fait, il y a une inversion des rapports de dépendance entre les centres de formation et les prestataires ou vacataires auxquels font appel ces centres de formation pour dispenser les contenus de formation. Donc, en tant que centre de formation, on met en œuvre une ingénierie pédagogique pour concevoir des contenus de formation qui répondent aux besoins à la fois des étudiants et qui répondent aux référentiels métiers et de formation qui sont imposés dans notre champ professionnel. Et en fait, le référentiel Calliope et toute cette logique de contraintes administratives et bureaucratiques nous amène en fait à une sorte de course à la conformité. pour bien répondre à tous les critères et maintenir la certification, la certification Calliope qui est nécessaire pour garder en fait les agréments et dispenser de la formation.
Et leur financement.
Et les financements, voilà, il y a bien évidemment un enjeu financier derrière. Et d'où ça ? Donc cette surproduction administrative nous amène à concevoir des tableaux de suivi, des fiches process, etc. Et l'impact concret, il se matérialise, je vous donne un exemple qui est très très concret, sur l'activité, nous, de cadre pédagogique et de formateurs interne, selon les écoles, on parle de formateur interne, de formateur permanent, enfin voilà, le terme est différent, mais on est tous à la même place. C'est qu'en fait, on est avant tout normalement formateur. Donc, on conçoit du contenu de formation, on doit être aussi en capacité de le dispenser selon nos spécialités et nos compétences les uns les autres, nos études antérieures. Le fait d'être complètement submergé par des tâches administratives fait que ça a même été inscrit de façon institutionnelle dans ce qu'on appelle les plans de charge ou les fiches de les alors ça, dans les centres de formation on parle de plans de charge, on pourrait parler de fiches métiers ou de comment on appelle ça pour les autres métiers, les
fiches de poste.
Les fiches de poste. Voilà, exactement. Et du coup, un plan de charge, c'est une déclinaison de la fiche de poste en fonction, en fait, du volume de chaque tâche réalisée et de l'importance qu'elle doit avoir dans le volume horaire de l'activité en général. Donc, nous, on était amenés à justifier de nos plans de charge par rapport au nombre de temps qui était dévolu à l'activité administrative, à l'activité pédagogique, donc le temps qu'on passe en face à face avec les étudiants, à l'activité d'accompagnement et de soutien aux étudiants. Et en fait, on s'est aperçu que dans ce plan de charge, il était plus important de pouvoir justifier de ce formalisme administratif que de faire de l'accompagnement et du soutien aux étudiants en dehors des heures de cours. Je précise, hein, parce que c'est là où, du coup, il peut y avoir un jeu un peu subtil où on dit, mais non, on n'a pas touché à l'activité pédagogique parce qu'on vous demande toujours de faire du face-à-face pédagogique. Oui, sauf qu'on doit faire toujours des heures de cours, dispenser des heures de cours, mais tout en ayant plus d'administratif. Et on a quand même toujours des étudiants qui peuvent rencontrer des difficultés, avoir besoin d'un soutien en dehors, d'avoir... voilà. Et ça, pour le coup, ce temps-là n'est absolument pas comptabilisé. Donc, à quel moment
on peut vraiment... quand même de le faire.
Et on nous demande quand même de le faire. De toute façon, si on ne le fait pas, on perd les étudiants en cours de route.
Ça, c'est inhérent, voilà. Même.
Ouais. Ça fait partie du travail de la relation. On forme des gens à la relation. Si on ne les soutient pas et on ne les accompagne pas... C'est voilà, ça dévoie complètement l'objectif. Ce qui fait que progressivement, on a été amené, et on nous l'a même clairement dit, à déléguer ces tâches de suivi et de soutien des étudiants à des formateurs externes.
Ah bon ?
Et oui, et notamment dans tout ce qui est suivi des écrits, accompagnement des mémoires, etc. Et avec donc la touche supplémentaire qui est de, il faut quand même formaliser et répondre à ces critères Calliope, donc on demande à ces formateurs externes, en plus, de faire des fiches suivies et de remplir des tableaux comme quoi qu'ils ont bien rencontré les étudiants X fois et que sur chaque rendez-vous, ils ont parlé de telle et telle chose, et donc de faire aussi le suivi et l'évolution de l'étudiant, ce qui normalement est une tâche qui revient au centre de formation. Et donc on demande tout ça bien évidemment aux étudiants externes, mais sans les rémunérer davantage. Donc on leur demande en plus de ce qu'ils font déjà habituellement, le suivi, l'accompagnement et la prestation de formation. Et c'est en ça que je parle d'ubérisation, c'est-à-dire que non seulement on rajoute des tâches à tout le monde à tous les niveaux, mais en plus on tire vers le bas la question de la rémunération, parce que quand on demande aux formateurs de ne plus être vacataires, mais d'être prestataires, c'est aussi parce que, quelque part, il y a un plafonnement des prestations, ce qui est en plus une aberration, parce que normalement, en tant que prestataire, on vient et on donne son tarif. Voilà, moi je propose une prestation à temps. Dans les centres de formation, ça marche absolument pas comme ça. Il y a une grille, c'est le centre de formation paye jusqu'à tel tarif, point. Et voilà, donc le formateur externe n'a pas le choix, C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment de l'ubérisation. C'est la même chose que l'Uber qui vous ramène le sandwich ou le plat que vous avez réservé en ligne à moindre coût, qui a un tarif imposé et qui est plafonné et qui n'a pas d'autre choix que de faire avec le système qu'on lui impose.
Je peux ajouter un détail croustillant là-dessus. Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fonction du niveau et de la reconnaissance de la section que j'ai en formation, je suis plus ou moins bien rémunéré. Donc, que les choses soient claires, c'est hallucinant. Un exemple très concret, dans la même école de travail social, si j'ai deux journées de formation avec des moniteurs éducateurs ou des assistantes sociales, je suis moins bien payé que si j'ai des éducateurs spécialisés et encore moins bien que si j'ai les cafés Ruisse ou les DEIS. Moi, dans mon domaine, je travaille pas mieux parce que j'ai des cafés Ruisse ou des DEIS. Et je dirais même que finalement, pédagogiquement, c'est même plus difficile et plus intéressant aussi de travailler avec des personnes qui n'ont pas eu un niveau scolaire, universitaire très long, etc. Mais pour le coup, et ça aussi, il y a des grilles comme ça tarifaires. Et je trouve, là, c'est l'acceptation d'une inégalité, je trouve, qui est sidérante. Et surtout, je me demande comment ça a pu être accepté par des directions d'écoles de travail social. Parce que je suppose, enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui, par exemple, désormais, ne veulent plus intervenir en école de travail social parce qu'ils estiment que les rémunérations sont insuffisantes. Du coup, s'ils y vont, en gros, vous me payez un DEIS, je suis d'accord, mais malheur aux moniteurs éducateurs ou aux assistantes sociales, parce qu'elles, force est de constater que leur formation, ça ne paye pas cher.
C'est ça. Deuxième critère, pour bien expliquer à ceux qui ne connaissent pas le travail social, CAFE Ruisse et DEIS, c'est des formations, des diplômes de cadres. Des cadres dans le travail social. On est sur des niveaux Bac plus 4, Bac plus 5. Alors qu'effectivement, moniteur éducateur, on est du niveau Bac à Bac plus 3 pour les travailleurs sociaux. Ouais.
Et avec une autre évolution économique qui est très préoccupante de mon point de vue, c'est l'augmentation des effectifs des étudiants dans les écoles de travail social. Et ça, moi, j'ai vu un truc en 20 ans. Quand j'intervenais, année 2006, 2007, 2008, sur des groupes d'étudiants en école de travail social, j'avais des groupes 15 personnes. Là, maintenant, sur des premières années, je peux avoir 50 JE ou 50 assistantes sociales dans la même salle. Alors là, comment je fais pour comprendre ce que chacune ou chacun a compris de ce qui se passe, pour faire participer tout le monde? C'est plus du tout le même métier, et pour moi, c'est inadéquat et inadapté à leur métier, à leur profession et à ce qu'ils vont devoir faire plus tard, quoi.
Alors là, est-ce que c'est parce que les centres de formation, je dis ça très, très schématiquement, ont moins de financement pour payer les formateurs, donc on réduit les formateurs. Est-ce que ça a un lien avec notre sujet de ce soir, le référentiel Calliope, où c'est tout un ensemble, ça fait partie de tout un ensemble de l'évolution,
Alors moi, ma connaissance, c'est pas tant qu'il y a moins de moyens qui sont mis dans la formation, qu'il y a plus de contrôle sur l'utilisation des fonds qui sont alloués aux centres de formation, et qu'il y a quand même cette logique de rationalisation et de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça encore, enfin jusqu'à pas longtemps, il y avait une obligation, un agrément pour tant de places d'éducateurs spécialisés sur les différentes filières. Et c'est le jeu des parcours de formation. Il y a un nombre de personnes qui candidatent, qu'on retient. Il y a, mettons, 40 places. On en sélectionne donc 40 qui rentrent en formation. Sur les 40 ne vont pas au bout de la formation. Ça arrive, c'est normal, c'est un parcours, c'est un cheminement. On peut se rendre compte que c'est pas la voie qui nous allait. On peut se rendre compte que les prérequis qu'on pensait avoir, finalement, on les a pas complètement. Il peut y avoir des changements de parcours de vie, etc. Aujourd'hui, les financements se font d'année en année sur le nombre de places effectives. Le renforcement de l'obligation d'émargement et de contrôle sur les signatures, il n'est pas tant dans l'intérêt pédagogique des étudiants d'assiduité à la formation. Il est dans une logique de contrôle budgétaire et de dire on ne vous payera pas pour une place vide.
D'accord.
Et donc c'est un ensemble. Alors c'est pas Calliope qui le génère lui-même tout seul, mais par contre ça fait partie d'une logique d'ensemble. Ça fait partie d'une logique d'ensemble. Oui.
Marie-Henriette.
Je peux ajouter un exemple hein, sur les exemples de pratiques complètement insignifiantes. Moi, sur la majeure partie de mes fins de formation, là, plutôt en formation continue, on me demande de faire un bilan formateur à la fin. C'est-à-dire de rédiger un petit deux pages, en gros, qui commence à s'est passé de votre point de vue en tant que formateur. Le nombre de fois, alors moi, je le fais, alors maintenant, je sais que personne ne le lit. Mais je sais que c'est une pièce obligatoire et pour l'institution, l'entreprise ou l'asso, etc. Et je me souviens, il y a quelques mois, mais ça c'était extraordinaire, où j'ai eu une formation qui s'est mal passée, en juin, il y a un an et demi et compagnie, parce que il y avait un groupe qui manifestement était très heureux de ses préjugés et n'aimait pas bien qu'on vienne un peu les titiller. Donc vraiment une formation où il y a eu une insatisfaction du groupe, mais une insatisfaction du groupe qui pour moi était importante, parce que je ne pouvais pas...
Par rapport à la formation que tu dispensais.
C'est une formation sur laquelle on doit un petit peu apprendre à prendre conscience de ses préjugés, d'une manière de les déconstruire ou de les travailler en équipe, des personnes qui s'arc-boutent dessus et qui pensent même qu'il s'agit là de savoir sociologique, bah forcément je vais au conflit avec ce type d'équipe ou de fonctionnement. Donc là effectivement ma satisfaction était moins bonne que d'habitude, et puis c'est 4 mois plus tard que la responsable de formation me rappelle, mais alors qu'est-ce qui s'est passé, Briac, sur ce truc, je lui demande, est-ce que t'as lu mon bilan formateur où j'explique tout ce qui s'est passé? Eh ben non, elle l'avait pas lu. Et parce que je pense aussi que ça les met, eux, la tête dans le guidon de la conformité administrative avant tout. En 2 autres exemples, moi, que j'ai trouvé mais sidérant, je suis sous effet de sidération toutes les semaines avec ce truc-là. Une année, un organisme m'envoie tout un pack comme ça en PDF à avoir pour 2 jours de formation. Alors là, c'est pareil, je comprends, donc c'est moi qui imprime. Ça aussi, c'est important de noter ça.
Ben,
c'est
moi.
Ok, oui, donc mon imprimante à la maison, c'est celle de... organisme corporate.
Pas de remboursement voilà. De
et là, pour le coup, je vois un document vraiment que je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas, il y a les noms de mes participants écrits en très très gros. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, il y a 2 flashcodes en dessous. Qu'est-ce que c'est? Et là, on m'explique que c'est les chevalets.
C'est des chevalets.
Alors, tu vois, nous, dans cette émission, on ne se connaissait pas tous avant de venir. Tout ça fait un petit... Moi, c'est ce que je fais. Je prends un bout de carton ou de papier. Les gens écrivent leur prénom, leur nom, un peu comme ça. Là, c'était informatique en PDF. Et derrière, il y a 2 flashcodes. Donc, les gens avec leur smartphone signent avec le flashcode numéro 1 et évaluent la formation avec le flashcode numéro 2. Voilà. Ça, c'est Calliope.
Et on demande au formateur de l'imprimer et de venir avec, comme si que c'était normal et que ça faisait partie du package de formateur, de prestation.
Deuxième exemple.
De papier d'imprimeur.
Alors que c'est une obligation qui incombe à l'institution qui dispense la formation.
Et puis, pardon, je rappelle surtout, ça n'a strictement aucun intérêt, ce truc. Rien, si ce n'est de dépenser de l'encre d'imprimante pour rien. Le deuxième point qui était extraordinaire, on a fait des fous rires. Ma collègue Nabila, qui devait venir ce soir, qui n'a pas pu venir, on en a pleuré de rire. Ou un jour, elle se rend compte, elle doit passer Calliope parce qu'elle, elle est chef de son organisme. Et du coup, elle m'appelle pour m'expliquer que pour imprimer les feuilles d'émargement, étant donné qu'elle n'a pas de site internet pour son organisme, il faut que le certificat Calliope figure au verso de la feuille d'émargement. Sur chaque feuille d'émargement, il faut démontrer que le diplôme Calliope figure derrière le document. Voilà, c'est ça les choses importantes de la qualité du point de vue de Calliope.
Et donc, effectivement, entre autres, on en a un peu discuté par ailleurs, les personnes qui suivent les formations, étudiants ou professionnels, doivent c'est mieux qu'ils répondent à une série d'enquêtes de satisfaction, si j'ai bien compris. Et ça prend une importance importante, et au niveau des formateurs, ça peut-être conditionne aussi effectivement le maintien sur leur poste. Enfin, je ne sais pas si ça peut aller jusque-là.
Comme beaucoup n'ont pas de poste, en fait, puisqu'ils sont juste vacataires ou sous-traitants pour le truc, ça va conditionner. En fait, est-ce qu'on le reprend la prochaine fois si les gens n'étaient pas contents?
Qu'on peut pressentir, enfin, je ne sais pas, ces enquêtes de satisfaction qui sont faites sur le champ ou presque, enfin, voilà. Enfin, les enquêtes de satisfaction, c'est partout dans notre société. C'est quelque chose qui maintenant est assez ancien, mais enfin qui n'existait pas dans le passé. Ça aurait été même inconvenant le terme qui me frappe, le terme satisfaction d'ailleurs. Voilà, c'est qu'on met partout. Je ne sais pas, Grégory.
Insatisfaction, c'est en faire assez, juste assez, ce qu'il faut. Pas trop. Pas...
Ah, tu le vois comme ça, toi.
Ah non, c'est pas, je vois pas comme ça. C'est l'étymologie, c'est du latin, satis, assez. Et facere, faire juste assez.
Ouais. C'est faire juste assez, ouais, le terme. Ouais. C'est pas être.
Et puis bon, avec toutes ces formules aberrantes, très satisfaisant, ce qui ne veut strictement
oui, les points,
rien
les
dire.
Points.
Ça ne veut ah, rien oui, dire. Vrai, assez très... satisfaisant, ça fait assez. Assez. Voilà, donc. Ça ne veut rien dire. Ces formules-là ne veulent strictement rien
points
dire.
1 à 10, enfin voilà, les, ouais. la note, les. Enfin. Ça, je parle là de ce qui se.
Non, mais c'est très. Voilà, après, ouais. Qu'est-ce que ça signifie être satisfait? Voilà. Parce qu'il faut du temps pour tirer la richesse d'une formation et l'assimiler dans ses pratiques. Il faut du temps. Au bout d'une formation qui, même s'il y a des éléments pratiques, reste quand même très... très on est plutôt dans une fiction, on n'est pas dans une situation professionnelle. On peut imaginer des situations, mais on n'est pas en train de travailler. Mais il faut énormément de temps pour pouvoir en tirer la valeur, ben, pour évaluer cette valeur. Alors, sur quoi va se fonder, justement, c'est ça qui est intéressant, sur quoi va se fonder l'enquête de satisfaction? Ben, peut-être sur le plaisir, sur peut-être la capacité à séduire, etc. Alors, il faut, parce que les formateurs, ils doivent être plaisants, ils doivent être agréables, ils doivent aller chercher le public et amener les formateurs, les stagiaires à se former. Voilà, il faut ruser avec eux. Mais l'essentiel de la formation, elle ne joue pas simplement dans ce rapport de séduction, il se joue à un autre niveau. Et la satisfaction, c'est souvent, oui, le plaisir qu'on retire à avoir quelque chose d'agréable. Mais qu'est-ce qu'on en tire?
C'est ça. C'est d'assimiler satisfaction et plaisir.
C'est effectivement une dérive. Directement inscrit dans les critères de Calliope. Ce que j'évoquais, pour le coup, je vous le cite textuellement, le critère 7 du référentiel de Calliope, il s'intitule « Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les participants aux prestations délivrées. Donc on voit bien comment, du coup, cette logique en fait de réclamation et d'appréciation, elle renvoie à quelque chose de l'ordre de la consommation. On c'est est sur la satisfaction, mais d'un produit que j'ai consommé. Ça, c'est absolument pas adéquat quand on parle d'un processus formatif où là, on est dans une transformation profonde des pratiques, des contenus de savoir que les apprenants vont recevoir, et pas du tout dans une consommation d'un produit qu'on trouvera en supermarché.
Ça, c'est malheureusement les enquêtes de satisfaction, où j'ai un peu beaucoup oublié, existent dans le secteur social bien avant le référentiel Calliope.
Puis on est dans une espèce d'évidence, parce que comment est-il possible de réclamer quelque chose dont on a besoin, mais qu'on ne connaît pas? En disant, j'ai été lésé par cette formation, j'attendais la connaissance de quelque chose que je ne connais pas. Non, mais le paradoxe est là. Enfin, comment est-il possible de réclamer quelque chose de ce type-là en termes d'une formation?
Alors, d'autant plus, moi, dans mon domaine, il y a vraiment. D'ailleurs, j'étais venu ici il y a 3-4 ans parler avec Tini Lan sur la question de l'interculturel, où pour le coup, un certain nombre de formations en France, dans le temps encore un peu aujourd'hui, mettent en place, en guise de formation interculturelle, où il s'agit à chacun, chacune, chaque institution et chaque groupe de réfléchir à son rapport à l'altérité, il y a eu beaucoup de formations culturalistes. C'est-à-dire qu'en gros, dites-nous comment sont les Maghrébins, les Africains, les Asiatiques, les Roms. Les Roms ont le droit à une spécificité comme ça dans les catalogues, ce qui est pour moi un véritable problème, parce que pour le coup, c'est une logique de découpage de l'humanité, en plus qui a été complètement remise en question par l'anthropologie, et qui est juste une formation illusoire. On fait croire aux gens qu'on va pouvoir leur parler en 2 jours d'une culture continentale, et qu'ensuite ils n'ont plus à rencontrer personne, parce qu'ils connaissent le mode d'emploi des personnes classées ainsi. Bref. C'est les attentes majeures implicites des groupes que j'ai en formation interculturelle. C'est ce qu'ils croient qu'ils vont venir manger. je dois, moi, de mon point de vue, de l'honnêteté intellectuelle et de quand même d'un certain humanisme, décevoir cette attente pendant toutes les formations. Donc, pour le coup, et donc précisément, non, ne pas chercher à aller séduire des groupes qui pensent qu'ils vont rester bien en dehors de tout ça et que je vais leur sortir un catalogue de traits culturels de je ne sais quelle culture ou continent avec lesquels ils ont pu à réfléchir, ils ont pu à
rencontrer.
Exactement. Donc, pour le coup, moi, je pense que justement, non, il ne faut pas séduire, il faut aller sur des descriptions réelles de ce qu'ils vivent au travail, de les enjeux sur lesquels ils travaillent avec des enfants, des patients, des familles et compagnie, et puis qu'ils n'oublient pas que nul n'observe les pratiques culturelles de l'autre à partir d'un point neutre ou inexistant. Les questions que je me pose sur la pratique sociale ou culturelle d'un autre groupe dépendent aussi de la manière dont moi j'ai été socialisé et dont cette pratique fait surprise ou familiarité pour moi. Donc pour moi, dans mon domaine, oui, il y a de l'inconfort à produire au sein du groupe, faut déstabiliser ce que chacune et chacun a cru savoir, faut s'impliquer un peu et être prêt aussi à reconnaître l'effet des idées reçues, des déterminismes sociaux sur soi-même. Donc c'est pas je préviens souvent les stagiaires, je vais vous mettre dans un certain inconfort.
Mais c'est même ça, ce qu'on nous disait. Exactement, ouais, c'est ce qu'on nous disait quand on rentrait en formation, nous. Enfin, je pense qu'on est un peu de la même génération. Quand on rentrait en formation, on nous disait attention, vous allez passer 3 ans qui vont vous bousculer, qui vont vous chambouler. Vous allez être. Vous allez apprendre des choses pour un métier, mais vous allez être personnellement aussi au travail sur des choses assez profondes et ça peut vraiment venir. Voilà. Et nos formatrices permanentes à l'époque nous disait surtout n'hésitez pas à venir nous voir, ça fait partie aussi nous de l'accompagnement qu'on propose que de pouvoir vous soutenir dans ce voilà dans ce processus là. À l'époque, je pense, de Marie-Henriette, il y avait même une obligation de faire de la psychanalyse en parallèle parce que c'était
non pas obligation,
il y avait obligation, mais il y avait des démarches. Voilà.
Il y avait beaucoup cette démarche de travailleurs sociaux qui allaient d'abord s'analyser avant d'aller s'interroger.
On voit comment ça a évolué. Aujourd'hui, on peut difficilement, même aux premières années, leur dire attention, les 3 années vont vous bouleverser parce qu'en fait, il faut absolument qu'on les maintienne en formation. Il ne faut pas qu'ils soient mécontents de ce qu'on va leur proposer. Donc en fait, on va être dans du consensuel. Il y a un intervenant qui va venir trop bousculer et utiliser des concepts qui les interrogent trop. On peut avoir des procédures qui sont lancées contre cet intervenant.
Ah bon?
On a eu, clairement avec une collègue qui est spécialiste des questions de genre et de discrimination, que ce soit aussi bien genre,
questions sensibles,
de racisme, etc. On a dû passer derrière un intervenant, un sociologue, qui avait fait réfléchir l'ensemble de la promo de première année sur la question du racisme du racisme anti-blanc et qui avait amené en fait un certain nombre de choses en termes de points de réflexion et que donc il y avait eu cette question là et la question aussi des discriminations de genre et en fait il y avait une telle imperméabilité à rentrer dans la réflexion des étudiants, qu'en fait, rien que de les interroger là-dessus, ils ont pris ça comme de l'attaque.
Ah oui.
Et donc, on a dû réintervenir, nous, derrière, pour dire que c'est un processus et que c'est ça, la formation, et c'est ce qu'on leur propose, et que s'ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas leur place là, c'est de réfléchir à ces questions-là. Il ne s'agit pas d'être d'accord, pas d'accord, mais de se mettre en réflexion. Et pas forcément de brandir la carte de cet intervenant est raciste. On parle d'un sociologue qui vient interroger des concepts. Donc, voilà. Ça amène aussi
moi
ça.
Moi, je m'interroge quand même aussi sur un sociologue qui parle du racisme anti-blanc, ça me questionne.
Il les a interrogés sur est-ce que c'est du racisme ou pas. Et c'était ça qui était intéressant, en fait, de voir comment le débat il pouvait s'ouvrir là-dessus.
Après, tout peut exister, c'est pas tout.
Non, conceptuellement, sinon c'est plus du racisme. Là, c'est ce qu'on a aussi repris, c'est ce qu'on a repris avec la collègue, en fait. Le racisme, il découle d'un rapport de domination. On ne peut pas être taxé de victime quand on est en position de dominant. Il y a un moment, il y a des incohérences. Et encore, j'ai pas la terminologie spécialisée qu'il faut employer. Mais ça, je le sais. Mais même le fait d'être dans une interrogation n'était pas possible et pas entendable. Et ça, c'est problématique. Oui, quand même.
Et sur le lien avec la satisfaction, par exemple, cette année, j'ai reçu, donc après une formation que j'animais, c'est une formation qui était pour des professionnels qui bossaient dans les logements sociaux. C'était une formation à la lutte contre les discriminations. La formation se déroule très bien, c'est un groupe intéressant, qui ne se cache pas derrière son petit doigt et compagnie. Et je reçois deux mois après un coup de fil de la responsable de formation de l'institution. Oh, Aurillac, alors tout s'est très bien passé. J'ai reçu les résultats de la satisfaction, c'est très bien, il est super pour. Par contre, je tenais à t'alerter pour tu. Et je la sens très gênée dans l'alerte qu'elle est censée. Bon. Et elle me dit, bah, je vais te lire le commentaire d'un ou d'une participante. Et ce ou cette participante, avec tout le monde en évaluation finale, l'intervenant est très rentre-dedans, et toutes les supports, les extraits d'enquête, les aller dans le même sens, à savoir dans le sens de ce que pense ce formateur, qui en outre a fait preuve d'un très grand irrespect à l'égard de Éric Zemmour. Quelqu'un qui pense que on peut à la fois respecter Éric Zemmour et puis aller à une formation de lutte contre les discriminations, mais surtout qui n'a pas compris. Moi, j'ai effectivement parlé d'Éric Zemmour dans cette formation, mais certainement pas en tant qu'éventuel candidat à une élection présidentielle passée, mais en tant que prétendu historien qui publie régulièrement des mythes de l'histoire de France, qui sont d'ailleurs en général réfutés par les universitaires, historiens et compagnie, et puis aussi comme individu condamné régulièrement pour des propos publics incitant à la haine raciale, à la discrimination et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais donc, rien que le fait que la responsable accorde de l'importance à ce seul commentaire critique et ne voit pas que là, il y a un immense problème à relever et à renvoyer une évaluation comme celle-là, ça en dit long sur la recherche de satisfaction pleine, totale et entière.
Non, ça, c'est un immense
Et donc, on
sujet.
Va...
Oui, il y a de la satisfaction, je crois que...
On va passer à côté de la question de la réflexivité, du fait de prendre du recul, de se questionner sur les différents apports formatifs qui sont amenés, qui doit être en fait au cœur de la formation. Même, j'ai envie de dire, des fois, même
sur la
plus que le contenu. Exactement. Au bénéfice, en fait, de la satisfaction, ou en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de contestation sur ce qui est proposé en formation, parce que derrière, il y a ces critères d'évaluation Calliope, oui, là, je fais le lien directement.
Ça, c'est le fondamental.
Qui effectivement, peuvent mettre en péril la notation ou le fait que les étudiants aillent voir ailleurs.
Ça c'est c'est partout dans notre société d'ailleurs, c'est très cette notion de enquête questionnaire de satisfaction, elle est partout. Moi, des fois je me dis il faudrait une loi qui supprime complètement que ce soit interdit.
Dans trois écoles de travail social là, dans lesquelles j'interviens régulièrement, j'ai constaté ces derniers mois qu'à la sortie, il y a un flash code encore, et on demande aux formateurs multiples, n'hésitez pas à flasher et à évaluer positivement notre établissement.
Oui, mais c'est la même chose que quand on va faire réparer sa voiture et qu'après, le garagiste vous dit, vous allez recevoir une enquête de satisfaction et s'il vous plaît, mettez-nous entre 9 ou 10 parce que sinon, on va perdre notre emploi. Risque de fermer et on risque de perdre notre emploi. Donc on est dans des logiques qui sont complètement aberrantes. Alors oui, on va mettre entre 9 et 10 parce qu'on a trouvé ce réceptionniste ou le garagiste sympathique et qu'on n'a pas envie qu'il perde son emploi.
C'est surtout
mais
ça
c'est
qu'on a peur qu'il perde son travail.
Exactement. Et c'est complètement absurde. On ne peut quand même pas appliquer, même si j'ai beaucoup de respect pour le travail des garagistes, la même logique de consommation d'une prestation d'une réparation de voiture à, encore une fois, un processus de formation qui vient transformer la personne, apporter des contenus de connaissances, de partage de savoir qui ne sont pas évaluables de cette manière-là.
Alors, ça, en plus, il y a la satisfaction, mais après, derrière, il y a donc demande croissante d'évaluation, c'est-à-dire que nous, formatrices, formateurs, on doit évaluer à quel point nos stagiaires ont acquis, alors un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout, les contenus qu'on leur a dispensés.
Ah bon, ouais, je ne savais pas.
Alors, ah oui.
Pour le coup,
comment c'est possible?
Non, mais non, parce que ça, ça n'est
en fait, pas possible.
Mais là, c'est pareil, c'est complètement fake. Non, mais c'est... Il y a des choses qui, de mon point de vue, sont mesurables au présent, ici, avec un groupe, sur dans quelle mesure les instruments de réflexion et de pratique que je leur apporte, ils peuvent s'en saisir et ça peut... Ça, on peut un petit peu voir ça. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est un papier à la fin qui va montrer qu'il y a eu une évaluation et dont la majeure partie des organismes se fiche en fait de la sincérité, de la vérité un petit peu de ce truc-là.
Il n'y a même pas le temps de les traiter en fait.
Alors, c'est donc ça aussi. Pour le coup, il y a un organisme pour le cas, alors, qui est hyper rigide là-dessus, donc j'ai bien compris que je n'avais pas le choix. Il me propose un quiz. Ah, je dis, mais alors, il est comment non un quiz sur de la socio de l'anthropo ça n'existe pas. Donc j'avais commencé à m'en sortir une première fois en proposant un petit travail de groupe. Et parce que aussi de mon point de vue, si on peut parler pour parler vite de compétences interculturelles, c'est essentiellement pour moi des compétences groupales, collectives et coopératives. Pour moi, une équipe dans un métier de travail social, c'est une équipe qui est en capacité de se remettre en question sur un certain nombre de normes sociales, mais surtout de se parler entre elles. Pour moi, une bonne équipe interculturelle, je sais pas, si je suis éduque avec Tini Nan, si on va faire une visite à domicile, qu'on tombe sur une famille sri-lankaise et qu'elle remarque que dans mon intervention, j'ai renvoyé 6 préjugés, ça serait bien que Tini Nan s'entende, Briac, t'as quand même renvoyé quelques préjugés à cette famille, faudrait qu'on fasse gaffe la prochaine fois. Pour moi, c'est ça une compétence interculturelle. Donc, je leur proposais sur des situations réelles qui décrivaient eux-mêmes, de faire un petit travail d'analyse et d'écrire un petit truc ensemble de 10-15 lignes. Mais ça peut pas être traité par de l'IA, par de la photocopie. Donc du coup, à la fin, non, ça va pas du tout. Et puis en plus, ça doit être individuel. Il faut que ça soit individuel. Donc je me dis, bon, je vais trouver autre chose. Et puis, ayant une fille qui est à l'université, qui passe des partiels de psycho, j'ai vu parfois sur des enseignements en anthropo, en psycho, bon, qu'il y a des QCM qui sont pas complètement idiots, qui peuvent, et même le fait de le faire amène à réfléchir. Donc j'ai tenté de faire un QCM en 6-7... question, qui a plutôt bien fonctionné, qui est plutôt intéressant de ce que m'en disent les stagiaires. Et bien, figurez-vous, là, maintenant, ça ne va plus parce que ça rentre plus dans l'appli. Il faudrait un truc complètement automatique. Donc, il y a un responsable de formation, il l'a repris, il m'en a pas informé, et du coup, il a fait du vrai-faux. Ce qui fait que son truc est faux à la fin, en fait. Donc, il va faire une fausse et mauvaise évaluation. Il n'a pas la compétence en plus. Mais parce que fallait que ça rentre dans un tableau Excel, que tu peux faire vert ou rouge, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis, donc, c'est-à-dire, quand même, c'est une invitation à ne plus penser, quand même.
C'est
mettre partout, des protocoles, appliquer la technique, ne plus faire relation avec les gens, faire clac, 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 j'ai fait mon métier parce que j'ai respecté.
Donc, ça rentre dans les logiciels, partout, je fais
et rentrer dans les cases.
Oui, et remplir. Même si ça ne correspond pas à la réalité,
Dans les QCM, j'ai mis des réponses que je dis justes, des réponses que je dis fausses et des réponses dont je dis qu'elles sont approximatives. Et ça, l'approximatif, ça ne marche pas dans cette pensée-là.
Non, c'est binaire, c'est ça, c'est oui ou c'est non.
Voilà.
On est mal barré. Alors. Je ne sais pas, ça vient peut-être comme un cheveu sur la soupe, mais peut-être...
Diana ?
Diana ?
Si je peux t'aider.
Oui, il fait trop chaud et le sujet est trop brûlant. J'avais pensé peut-être qu'on fait un petit intermède. Que tu donnes ton information pour un festival et on continue après sur le sujet. On a jusqu'à 19h, moins 5, c'est ça, dit
21h.
Oui.
C'est pas grave, on va recommencer.
Oui, 21h moins 5, voilà, ok.
D'accord.
Donc, ok, Diana,
Donc,
tu nous invites.
Je vous invite le 25 et 26 juillet au 4e Festi Rural Festi Art qui aura lieu à Vaillon, en fait, dans un petit village de Haute-Marne qu'on prépare depuis un petit moment déjà. Et donc ce festival est à l'initiative d'un monsieur Seguin, en fait, un circassien qui habite Vaillant depuis quelques années, qui était originaire de Ris-Orangis. Et en fait, l'objectif de ce festival, c'est aussi un petit peu de mixer le milieu urbain avec le milieu rural à travers différentes performances artistiques, que ce soit du cirque, de la raga avec Big Red.
Oui, il y a tout un programme.
Il y a tout un programme, les comptines du commandant Costaud, fabuleux numéro et cabaret. Et donc, ça dure 2 jours, en fait, vendredi et samedi. Et avec aussi des préparations de repas fournies et faits avec les producteurs locaux. Voilà, donc coffee, c'est le dimanche. Ouais. Samedi 26. Samedi 26.
C'est pas le week-end, j'ai cru comprendre que c'était.
Vendredi, samedi, en fait.
C'est un vendredi et samedi, c'est ça. Au mois fin juillet. Hein.
Fin juillet, donc 25 et 26 juillet. Donc c'est un vendredi, ça se passe en Haute-Marne. Et donc je disais, dans un petit village vaillant. Et c'est aussi. Ce festival, il vient aussi s'intéresser aussi aux différents sous inégalités territoriales, voilà, de faire vivre aussi des lieux ruraux comme Vaillant et autres, voilà. Et donc
voilà, une dimension, on va dire, un peu interculturelle, si je puis dire, dans ce.
C'est surtout un mixage urbain et rural, c'est surtout voilà. Ça, et vu les événements actuels, sans vouloir politiser. Et ce qu'on a pu entendre ces derniers temps, ben, en fait, c'est un festival, ce que je disais tout à l'heure, qui existe depuis plusieurs années déjà et qui a vraiment mis à l'honneur des rencontres là, à travers l'artistique, quoi, des gens qui habitent, qui viennent du 91, de Paris, d'un peu partout, d'Île-de-France surtout. Puisque la personne qui l'organise est originaire d'Île-de-France, c'est Driss Orangis, c'est exactement. Et les habitants de Vaillant, puisque j'y ai participé l'année dernière aussi, et des alentours de Haute-Marne, puisqu'il se passe aussi des choses en Haute-Marne. Et je pense que c'est bien aussi de s'intéresser à.
Est-ce que tu peux donner concrètement
des gens qui viennent de milieux différents?
Je ne sais pas, ouais. Un site à consulter ou pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus. C'est
alors, bien pour réserver Fabuleux numéro 1.
Bon.
Ah, si. Alors, oui, pour réserver, c'est 06 72 73 28 47. Voilà, les tarifs, en fait, aussi, c'est important. Un jour, c'est 18 euros, 2 jours, 30 euros. Voilà, sur place, un jour, je vais répéter, donc un jour 18 euros et 2 jours 30 euros. Et je vais répéter aussi le numéro 06 72 73 28 47.
Mais dis-nous, puisque tu as l'expérience au bout du monde, Vaillant de la région de Paris.
Non, c'est pas le bout du monde, c'est entre Troyes et Langres. Ah. Alors on peut s'y rendre par le train, voilà, jusqu'à Langres. Et après, faut. C'est pas à côté, en fait, puisque je l'ai fait.
Comment tu fais, toi, pour y aller?
Ben, en fait, après, il faut faire appel aux gens sur place. En général, on s'organise, on fait du covoiturage, etc. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est un peu organisé.
Petite expédition.
Donc, c'est vrai que moi, j'ai un peu participé à l'organisation l'année dernière. Donc, du coup, voilà, j'étais avec une copine. Mais il y a possibilité de s'arranger, voilà. En fait.
Puis si on vient par le train. On peut toujours rester à Langres, visiter la ville.
Oui, c'est une ville.
Mais je ne connais pas. Oui, tu connais.
C'est une ville de centre. Vous connaissez?
Bah oui, tout le monde connaît Langres et son grand philosophe, Denis Diderot, bien sûr. La moindre des choses.
On est d'une ignorance crasse, wow. Grégory. C'est ça l'interculturel.
Langres, oui, ben, c'est l'entrée aussi de la Bourgogne. Voilà, c'est le dernier promontoire et face à Langres, on devine la Bourgogne. Et alors d'ailleurs, la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que le Langres? Vous connaissez le Langres?
Pas du
c'est
tout.
Le fromage de Langres. C'est un fromage de vache extraordinaire. Et la question qu'on s'est posée pendant longtemps, c'était de savoir si l'Angle faisait partie de la Champagne ou de la Bourgogne.
Eh bien, ça, c'est une question redoutable, je sens ça.
Oui, allez, on y a répondu simplement en faisant la remarque que le Langres, le fromage, se servait avec du marc de Champagne. Et donc, Langres fait partie de la Champagne. Voilà. Parole de champenois, j'en ai terminé.
Je vois Guy, le technicien, qui opine du bonnet. Il a l'air d'accord, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc,
je rappelle les dates, 25-26 juillet à Vaillant, pas très loin de Langres. Et
le numéro de téléphone,
c'est 06 72 73 28 47, si vous souhaitez nous rejoindre à ce festival.
Et on peut y aller une journée
Voilà, on peut y aller le vendredi ou le dimanche. Et aussi, si on vient avec les enfants, il y a des ateliers cirque, il y a plein de choses aussi qui se passent dans la journée. Donc, en fonction de ces possibilités.
Voilà. D'accord, c'est un moyen de... En tout cas,
donc je visiterai Langres, parce que je ne l'ai pas visité.
Fortification.
C'est ça. Etc. Il y a un centre-ville fortifié, c'est ce qu'on m'a dit. Et voilà. Merci.
Bon, merci pour cette information. Et on continue, on a 10 minutes,
un quart d'heure.
C'est-à-dire que, non, au niveau de la technique, ça arrange qu'on termine quelques minutes avant 21h. Voilà, c'est tout. Donc, Guy, qui est en face de moi, opine du bonnet. Donc.
Mais la technique, c'est pas moi, hein, c'est l'ordinateur derrière.
C'est l'ordinateur.
Bah oui, lui voilà, va.
Vous voyez, même Radio Libertaire.
Bah oui, il va savoir que c'est l'heure et donc il va couper.
Il va couper.
Mais enfin, on... Oui, mais à ce moment-là.
Est-ce que tu veux qu'on propose une conclusion
sur Calliope. Voilà, si on peut, ou au moins ce que ça. C'est vrai que je serais bien en peine comme ça. Je trouve que c'est très révélateur aussi de notre société, quoi. Voilà. Et de la transmission de la connaissance, quand même, là, c'est grave, quoi. Voilà. Qu'elle soit entravée, c'est pour moi, c'est quelque chose de fondamental qui se passe là.
C'est inquiétant.
Plus que ça.
Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ce référentiel, c'est que il a été présenté à sa conception comme un outil qui allait permettre de garantir la qualité des formations professionnelles, quelles qu'elles soient, et qu'on voit bien à l'usage et à l'expérience qu'en fait ça a produit complètement l'effet inverse, à savoir mettre les formateurs et les instituts de formation en position de finalement proposer des contenus de formation de moins en moins qualitatifs, faute de temps et de moyens.
Et pas que. Aussi les histoires de soumis aux enquêtes de satisfaction. Voilà,
mais tout ça relève de la même logique, de garantir, en fait, de garantir des moyens et une certification et un agrément derrière, avec quand même le deuxième effet qui se coule, je dirais, qui est dramatique. En tout cas qui est assez pervers, je dirais même, qui est d'avoir créé tout un marché de la certification et au niveau de Calliope, avec la création d'organismes qui délivrent cette certification, qui sont des organismes privés, par lesquels il est obligatoire de passer pour obtenir cette certification. Et on a pu voir, en rencontrant les personnes certificatrices, qu'elles ne connaissent absolument rien du domaine sur lequel elles certifient.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, ça a ouvert tout un marché de la certification. Où là, pour le coup, ces personnes sont quand même grassement payées, hein, pour préparer une certification. Il faut y aller entre Je discutais avec un ami qui est dans le café, qui n'a absolument rien à voir avec le travail social, qui pour avoir la certification Calliope pour faire des formations de 3 jours pour faire du latte art, je ne sais pas si vous connaissez, dessiner sur le café, a dû faire tout ce processus-là. Toute petite école de formation, ils sont 2 à former les gens. Ils ont dû débourser au moins 5000 euros pour être accompagnés à préparer la certification. Et pour être certifié même, rebelote la même. Donc on en a pour plus de 10 000 euros pour avoir uniquement cette certification-là. Donc on comprend aussi comment, quelque part, ça exclut tous les formateurs indépendants ou les petits centres de formation qui ne vont pas avoir les moyens de payer en fait toutes ces prestations qui permettent d'obtenir cette certification-là.
D'accord.
Donc j'en reviens moi à cette logique d'ubérisation, on est complètement là-dedans.
Oui, la certification ne peut être apportée que par des organismes externes. Si
exactement. D'accord. Exactement. Et qu'il faut payer pour.
D'accord, comme dans l'évaluation, enfin, depuis la loi du 2 janvier 2002 dans le secteur social et médico-social, où l'évaluation externe de l'établissement conditionne quand même aussi le renouvellement de leur habilitation, de leur financement, par des évaluateurs qui ne sont souvent en dehors du champ. Et
donc
qui ne connaissent
rien. Il est difficile quand même de ne pas relever que ça rentre bien dans des logiques néolibérales.
Oui, tout à fait.
Voilà ce que je pourrais dire moi pour conclure un peu mon propos.
Briac, tu...
Moi j'ai envie d'inviter tout le monde dans ce domaine à résister en fait à Calliope, à mettre pour chacun le maximum de bâtons, alors à chacun avec son pouvoir, sa possibilité sa capacité à s'en extraire. Alors moi je sais que j'ai un truc, mais bon c'est aussi un peu plus, je fais remarquer à chaque fois et de manière très claire et explicite les absurdités qu'on me demande de faire. Je prends très souvent, alors ça aussi moi je me balade, donc j'ai plein de relations, pas toujours très... Par contre, dès que j'ai l'occasion d'en parler avec les chargés de formation et des responsables de formation, et je constate d'ailleurs qu'énormément de personnes en interne sont d'accord avec moi, je pense que c'est vraiment une évolution négative qui nous met surtout à côté de ce sur quoi on devrait travailler. Et pour le coup, si je pense à un ancien collègue qui a quitté le domaine de la formation maintenant, qui est passé sur autre chose, mais qui lui, pour le coup, maintenant peut être amené à recruter sur des temps d'intervention des formateurs, des intervenantes et compagnie, et qui m'expliquait comment il essayait de faire comprendre à son équipe et à son administration comment fallait arrêter de nous emmerder, nous. Formateur avec des trucs de scan ta facture ici, envoie un mail à quelqu'un qui n'existe pas, qui va classer ton document et compagnie. Et en expliquant aussi à ses équipes, nous, en fait, les compétences qu'on attend chez ces formateurs et ces formatrices, c'est des compétences pédagogiques et c'est pas des compétences de conformité informatique. Et après, autre point, pour moi, c'est vraiment aussi un des éléments de la volonté d'informatisation de tout le monde. Parce que je ne comprends pas comment, alors, notamment dans mon domaine spécifique de formation à teneur socio-anthropologique ou psychosociale, vraiment la majeure partie des outils qu'on m'impose, je n'en ai vraiment pas besoin pour proposer des formations intéressantes aux personnes. Moi, vraiment, un groupe, un peu de support papier aussi. Ah oui, il y a aussi des organismes maintenant, faut retirer le papier parce que c'est pas écolo. Par contre, leurs applis et leurs smartphones, leurs trucs, ça, il semblerait que ça le soit subitement devenu.
Et la profusion mail.
En l'occurrence, en général, pour les formations que j'anime moi, on a besoin d'un groupe. On a besoin de formateurs et de formatrices qui ont quelques éléments à apporter à ce groupe. Et puis oui, on a besoin un peu de documents copiés pour lire. Pour lire des extraits de textes sociologiques, anthropologiques, psychosociales, on n'a pas vraiment... Et j'ajoute aussi autre chose qui quand même dit bien cette question-là du vernis, de la coulisse. Les lieux de formation dans lesquels je me déplace sont de plus en plus des no man's land où il n'y a plus personne pour nous accueillir, où, vous savez, le truc, on doit brancher son diaporama, son truc, ça ne marche plus, où il y a des... Alors maintenant, il y a des tableaux remplacés par des tableaux numériques. Mais comme ils ont plus de fric dans beaucoup d'institutions, bah, le feutre numérique, il est éclaté depuis 6 mois. Donc plus personne ne peut l'utiliser. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faut voir aussi les lieux dans lesquels on se retrouve. Notamment, moi, ce qui m'a été le plus effrayant pour moi ces dernières années, c'est les salles qu'on propose aux soignants et aux soignantes, infirmières et infirmiers de nos hôpitaux, où ce sont des vieux préfabriqués complètement vides. Ou quand vous avez demandé 10 feuilles de papier pour faire des affichettes au mur pour le groupe, vous avez l'impression de vous faire le coffre-fort de l'hôpital. Et là, pour le coup, il faut voir l'état aussi dans lequel on trouve les lieux et aussi ce truc où il n'y a plus personne pour faire l'accueil puisque chacun est sur ses tâches administratives. Mmh. En dernier exemple, une école que Tininan et moi connaissons très bien, la dernière fois que j'y étais, je n'avais plus du tout d'interlocutrice parce que l'ancienne responsable de formation avait craqué. Je trouve que je connais cette responsable de formation qui est une étudiante que j'ai connue d'ailleurs pas. Qui est brillante, qui est intelligente, qui met du sens dans son métier. Là, il a fallu 4 mois pour que elle craque, elle ne soit plus là. Donc moi, quand j'y suis arrivé, j'ai plus aucun interlocuteur dans l'institution. Quand j'arrive sur place, je me rends compte qu'on n'a pas donné la vraie thématique de ma formation. C'est-à-dire qu'il y a une erreur. Donc on leur a expliqué une thématique que je devais faire effectivement auprès d'elle, mais 6 mois plus tard, et pas du tout celle qui était annoncée. Ce qui n'était pas gênant pour moi, c'est que bon, je sais animer les deux, mais pour le coup, je trouvais ça quand même un peu curieux dans cette organisation phénoménale. Mais surtout, à un moment, un truc très concret, il y a un étudiant qui a déboulé en retard à 10h15, qui était très 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 mal en point, dans le sens où je pense qu'il était bien malade et fiévreux et compagnie, et puis qu'il avait dû faire une sacrée soirée la veille. Mais il était vraiment pas bien, verdâtre, avec une... Et du coup, je me suis retrouvé tout seul avec un groupe de 50 personnes, et cet étudiant pour qui il fallait faire quelque chose, parce qu'on a des rôles de sécurité aussi. Alors, on ne connaît pas les lieux, mais la sécurité, c'est nous. Quand même, je vais voir comment il va ce jeune homme, et puis je l'appelle aux autres stagiaires. Bah, faudrait peut-être, là, je pense, appeler peut-être les secours, pour il est vraiment pas bien. Donc, bah, je confie pour le coup ce jeune homme à ses 3-4 voisines. Et puis, bon, les secours viennent le chercher et compagnie. Puis je me dis, peut-être quand même, il faut que j'informe. Les gens, du coup, enfin les locaux, les responsables de formation. Et là, dans ce couloir, hein, il n'y avait strictement personne ce jour-là, puisque entre ceux qui avaient craqué et ceux qui étaient en télétravail, c'est-à-dire que j'arrive dans un lieu où j'ai.
Des services fantômes. Moi, j'appelle ça des services fantômes.
Complètement. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est pas un critère Calliope, quoi. Ouais. Étonnant.
Oui.
Donc je pense tout ce qu'on pourra faire pour nuire à Calliope, aussi pour faire connaître, c'est-à-dire que c'est des sujets qui n'intéressent pas les médias mainstream bien évidemment, je pense que c'est quelque chose à faire connaître, c'est quelque chose à critiquer et c'est quelque chose je pense qu'il faudrait parvenir à abolir, enfin vraiment, c'est vraiment ça ne sert à rien si ce n'est de servir des intérêts qui n'ont rien à voir avec le domaine dans lequel on forme, avec les métiers des personnes et avec ce qui peut constituer une bonne dynamique de formation quoi.
Ça nuit même à la qualité des formations, concrètement, contrairement à son objectif premier.
Ça nuit à la santé mentale. Mentale. Mais ça se généralise partout, en fait, ce qui se passe pour les formateurs avec ce logiciel, c'est ce qui se passe voilà, un peu partout, ou dans les... que ce soit dans les universités, dans le travail social.
Donc, comme ça, malheureusement, l'évaluation, il faut se trouver les moyens, la bonne stratégie pour évaluer cet outil d'évaluation. Le juger publiquement, peut-être, lors d'une soirée consacrée à ce petit frère d'Orwell, puisque l'émission qui suit, du social, c'est les enfants, les amis d'Orwell. Donc, on est un peu là-dedans.
D'accord. Oui, d'ailleurs, on pourrait confronter, parce que ce qui s'est dit là ce soir, à d'autres secteurs professionnels qui n'ont rien à voir. C'est, avoir des surprises intéressantes, parce que bon, nous, on est dans la clinique, l'humain, etc., mais je suis persuadée que même dans le cadre strictement, disons, plus technique, il peut y avoir des questionnements importants. Enfin, j'en sais rien, mais je vois beaucoup de certains secteurs qui sont soumis à des barèmes de temps, au détriment de la qualité du travail, malgré le danger que ça peut entraîner pour les personnes. Enfin, c'est cette question de rentabilité, entre guillemets, je dirais. Voilà, elle est omniprésente, je dirais, je ne sais pas, partout. Enfin, voilà. Mais je crois que... peut arrêter là compte tenu de l'heure. Merci à tous nos invités. Une petite pensée à Cécile qui habituellement co-anime avec moi, qui ne pouvait pas venir ce soir, qui va entendre l'émission en replay. À Nabila, salut, qui devait être là ce soir et qui n'a pas pu. Voilà, qui n'a pas pu venir. Eh bien, bon.
Merci pour cette invitation.
Merci, et on dit aux auditeurs que l'antenne du social va reprendre à la rentrée de septembre. Bon été à tous.
Au revoir.
Vous vous en doutiez, je vous écris encore. Quoi que vous fassiez, c'est à la vie, à la mort. Tant de choses à vous dire, à n'en plus pouvoir. Il n'y a rien de pire que la fin d'une histoire. Il faut que vous sachiez que j'aimerais tant que vous me répondiez quand même de temps en temps. J'ai envie de chanter que vous êtes belle, mais vous vous en fichez, vous vous en battez l'aile. Oubliez la raison et vivez tout simplement. Tentez d'autres horizons, prenez la clé des champs. Il n'y a rien de pire que de passer à côté. La raison est un vampire, il ne faut pas rêver. Aimer tout simplement, il faut assumer. Ne pas faire semblant, même pour se rassurer. Le temps a filé, mais je suis encore là. Je n'ai rien vu passer, c'est terrible ma foi. Il faudra bien pourtant que je m'y fasse un jour. Pourtant il n'est pas temps de dire adieu au beau jour. Je n'en ai pas fini de vous dire combien est triste l'ami qui vous veut du bien.